Chapitre 32. Germantown, mercredi 31 décembre 1980.
Le problème, dit Tony Harrod, c'est que je n'ai jamais tué personne.
Personne? Demanda Maria Chen.
Personne, jamais.
Maria Chen hocha la tête et reversa du champagne dans leur verre. Ils étaient nus, allongés face à face dans l'immense baignoire de la chambre 2010 du Chestnut Hills Inn. Les miroirs reflétaient la lueur d'une unique bougie parfumée. Harrod s'adossa à la paroi de la baignoire et contempla Maria Chen à travers ses lourdes paupières. Les jambes hâlées de la jeune femme faisaient saillie entre les îlots blancs des genoux de son compagnon. Elle avait les cuisses écartées, les chevilles posées sur les côtes de Harrod, invisibles sous la mousse. Les bulles dissimulaient la quasi-totalité de son sein droit, mais il apercevait son mamelon gauche, aussi gros et appétissant qu'une fraise dans l'eau sombre. Il admira les courbes de sa gorge et le poids de sa chevelure noire lorsqu'elle rejeta la tête en arrière pour boire à son verre débordant de champagne.
« Il est minuit, »
dit Maria Chen en jetant un coup d'œil à la Rolex de Harrod posée sur la tablette.
« Bonne année. »«
Bonne année, »
lui retourna Harrod. Leurs verres s'entrechoquèrent. Ils buvaient depuis 9 heures du soir. C'était Maria Chen qui avait eu l'idée de prendre un bain.
« Jamais tué personne, » marmonna Harrod. « Jamais eu besoin. »«
Il semble que tu vas être obligé d'en passer par là, » dit Maria Chen. « Quand Joseph est parti tout à l'heure, il a répété que M. Barrent insistait pour que ce soit toi qui... »«
Ouais. »
Harrod se redressa et posa son verre sur la tablette. Il s'essuya et tendit la main. Maria Chen la prit et émergea lentement des bulles. Harrod lui passa doucement la serviette sur la peau, la séchant peu à peu, lui fit un cercle de ses bras pour caresser ses seins avec le tissu moelleux. Elle leva un pied et écarta légèrement les cuisses lorsqu'il l'essuya entre les jambes. Harrod lâcha la serviette, souleva Maria Chen et la transporta dans la chambre. Pour Harrod, c'était comme la première fois. Il n'avait jamais possédé une femme consentante depuis l'âge de 15 ans. La peau de Maria Chen avait goût de savon et de cannelle. Elle gémit quand il la pénétra, et ils roulèrent sur l'immense lit aux draps si doux. Elle le chevauchait lorsqu'ils s'immobilisèrent, toujours unis, toujours enfiévrés, se caressant des mains et de la bouche. L'orgasme de Maria Chen fut bref et violent, ses gémissements très doux. Harrod jouit quelques secondes plus tard, fermant les yeux et s'accrochant à elle comme un homme s'accrochant au dernier objet susceptible d'arrêter sa chute. Le téléphone sonna. Continua de sonner. Harrod secoua la tête. Maria Chen l'embrassa sur la main, glissa sur les draps pour aller répondre. Elle lui tendit le combiné.
« Harrod, rappliquez et vite !»
dit la voix excitée de Charles Colben.
« C'est la panique ici !»
Colben retourna dans la salle de contrôle. Les hommes assis devant les moniteurs ne cessaient de griffonner des notes et de murmurer dans le micro de leur casque.
« Où diable est passé Gallagher ?»
beugla Colben.
« Toujours aucune nouvelle, monsieur, »
répondit le technicien en poste à la console 2.
« Et puis merde !»
jura Colben.
« Dites au groupe vert de cesser les recherches. Envoyez-les soutenir Bleu 2 près de Market Street. »«
Oui, monsieur. »
Colben remonta les 3 passages d'un pas vif et s'arrêta derrière la dernière console.
« Les espions sont toujours à la maison ?»«
Oui, monsieur, »
dit la jeune femme assise devant le moniteur. Elle appuya sur un bouton et la maison d'Anne Bishop disparut de l'écran pour être remplacée par une vue de la ruelle située derrière. En dépit de l'objectif à vision nocturne de la caméra qui les filmait, les silhouettes tapies près du garage à 50 mètres de là n'étaient que des ombres. Colben en compta 12.
« Passez-moi hors 1 !» ordonna-t-il sèchement.
« Oui, monsieur. »
La technicienne lui tendit un casque micro.
« Peterson, ils sont une bonne douzaine à présent. Qu'est-ce qui se passe, bordel ?»«
Je l'ignore, monsieur. Voulez-vous que nous intervenions ?»
« Négatif. Restez en ligne. » Huit personnes inconnues dans Ashmead Street, dit l'agent en poste à la console 5. Elles viennent de passer devant le groupe blanc.
Colben ôta son casque.
Où diable est passé Haynes?
Il vient d'aller chercher Harrod et sa secrétaire, répondit l'homme en poste à la console 1. Ils seront ici dans 5 minutes.
Colben alluma une cigarette et tapa sur l'épaule de la technicienne.
Dites à Jack de rappliquer ici avec l'hélicoptère.
Bien, monsieur.
L'agent James Leonard sortit du bureau de Colben et lui fit signe.
Monsieur Barrent vous appelle sur la ligne 3.
Colben referma la porte.
Ici Colben.
Bonne année, Charles.
La voix de Barrent était si lointaine, et il y avait une telle friture sur la ligne que Colben eut l'impression que l'appel était transmis par satellite.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
J'ai parlé à Joseph tout à l'heure. Il a émis quelques inquiétudes sur le déroulement de l'opération.
Et à part ça, quoi de neuf? Kepler est toujours en train de râler. Pourquoi n'est-il pas resté ici s'il est aussi inquiet, nom de Dieu?
Joseph m'a dit qu'il avait des affaires à traiter à New York.
Barrent marqua une pause.
Nos amis ont-ils donné signe de vie?
Le vieux Bosch, faut vous le dire.
Non,
pas depuis l'explosion d'hier dans l'entrepôt.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle Willy aurait sacrifié un de ses agents pour éliminer le docteur Lasky?
Et pourquoi de façon si voyante?
D'après Joseph, les pompiers de la ville ont dû intervenir.
Comment le saurais-je, bon sang?
Écoutez, nous ne sommes même pas sûrs qu'il s'agissait de Luard et du Juif.
Je croyais que vos médecins légistes travaillaient à leur identification, Charles.
Ils n'arrêtent pas.
Mais demain, tout le pays débraye. De plus, d'après les premières constatations, Luard et Lasky étaient assis sur 15 kilos de C4. Mes hommes n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.
Je comprends, Charles.
Bon, il faut que j'y aille. La situation commence à se compliquer ici.
De quel genre de complications s'agit-il?
Demanda Barrent au milieu des grésillements.
Rien de grave. Quelques membres de cette foutue bande de jeunes qui glandent dans le périmètre de sécurité.
Cela ne risque pas de gêner le déroulement des opérations prévues pour ce matin, n'est-ce pas?
Négatif. Harrod est en route vers le centre de contrôle. Si c'est nécessaire, nous pouvons boucler le quartier en 10 minutes et nous occuper de la Fuller en avance sur l'horaire prévu.
Pensez-vous que M. Harrod soit à la hauteur de la tâche, Charles?
Colben écrasa sa cigarette et en alluma une autre.
Je ne pense pas que Harrod soit à la hauteur de la tâche consistant à se torcher le cul. La question qui se pose est la suivante. Que ferons-nous quand il aura salopé le boulot?
Je suppose que vous avez envisagé cette possibilité.
Ouais. Haynes est prêt à intervenir et à s'occuper de la vieille. Une fois que Harrod aura raté son coup, j'aimerais m'occuper personnellement de ce frimeur hollywoodien.
Je suppose que vous recommandez son élimination.
Je recommande de fourrer un magnum dans la bouche de ce con et de répandre sa putain de cervelle sur tout l'ouest de Philly.
Il y eut un bref silence, seulement interrompu par les grésillements de la ligne.
Agissez comme il vous semblera nécessaire, dit finalement Barrent.
Oh, il faudra aussi faire disparaître sa secrétaire Shintok.
Naturellement. Charles, il y a autre chose.
L'agent Leonard passa la tête par l'entrebâillement de la porte.
Haynes vient d'arriver avec M. Harrod et la fille. Ils sont à bord de l'hélicoptère.
Colben hocha la tête.
Oui, quoi donc?
Demanda-t-il à Barrent.
Demain est un jour très important pour nous tous. Mais n'oubliez pas qu'une fois que la vieille aura quitté la partie, notre tâche essentielle sera de nous occuper de M. Borden. Si possible, vous le contacterez en vue d'organiser des négociations, mais vous devrez l'éliminer si cela s'avère nécessaire. L'Island Club se fie à votre jugement, Charles.
Ouais, je m'en souviendrai. Je vous rappelle plus tard, d'accord?
Bonne chance, Charles.
Il y eut un sifflement et la communication fut coupée. Colben raccrocha, attrapa un gilet pare-balles et une casquette et glissa son calibre 38 dans la poche de sa parka. Les pales du rotor se mirent à tourner plus vite,
lorsqu'il courut en courbant le dos vers la porte ouverte de l'hélicoptère. Saul Lasky, Jackson et Taylor, accompagnés de 6 jeunes membres de Saul Brickyard, regardèrent l'hélicoptère s'envoler en direction du nord-est. Ils avaient garé leur camion près de la barrière en bois, à un demi-pâté de maison de l'entrée du centre de contrôle du FBI.
« Alors ?» demanda Taylor à Saul. « C'était votre sorcier vaudou ?»«
Peut-être, » répondit le psychiatre.
« Est-ce que nous sommes du côté du chantier ?»«
Je crois bien. »
« Vous êtes sûr de pouvoir faire démarrer les engins sans l'aide des clés de contact ?»«
Je veux, mec, » dit Jackson. « Quand j'étais au Vietnam, j'ai passé 3 mois dans les ateliers mécaniques du génie avant d'être envoyé dans la jungle. Je pourrais faire démarrer même ta mère. »«
Les bulldozers suffiront. »
Comme Jackson, Saul savait qu'il était moins simple de faire démarrer un bulldozer qu'une voiture.
« Hé !» fit Jackson. « Quand je les aurais fait démarrer, tu arriveras à piloter le tien ?»«
J'ai passé 4 ans à construire et à entretenir un kibbutz, » dit Saul. « Je pourrais piloter même ta mère. »«
Fais gaffe, mec !» dit Jackson avec un large sourire. « Commence pas à jouer à ce petit jeu avec moi. Les Blancs n'y connaissent rien en matière d'insultes. »«
Dans ma culture, nous avons pris l'habitude d'échanger des insultes avec Dieu. Quel meilleur entraînement pourrait-on concevoir ?»
Jackson éclata de rire et tapa Saul sur l'épaule.
« Arrêtez de déconner, tous les deux !» dit Taylor. « On a déjà 2 minutes de retard. »«
Tu es sûr que ta montre marche bien ?»
s'enquit Saul. Taylor prit un air outré. Il tendit son poignet pour exhiber une Lady Elgin des plus élégantes, boîtier en or de 24 carats et cadran incrusté de diamants.
« Ce truc ne retarde pas de 5 secondes par an. Il faut se remuer. »«
Bien, » dit Saul.
« Comment on fait pour entrer là-dedans ?»
« Poisson-chat !»
appela Taylor, et un des garçons qui se trouvait dans la remorque en ouvrit la portière, se hissa sur le toit, bondit sur la barrière haute de 3 mètres et disparut à l'intérieur de l'enceinte. Ses 5 compagnons le suivirent. Ils portaient de lourds sacs à dos contenant des bouteilles cliquetantes. Saul considéra son bras gauche toujours bandé.
« On y va !»
souffla Taylor en sortant de la cabine.
« Tu risques d'avoir mal au bras, » dit Jackson. « Tu veux que je te fasse une piqûre ?»«
Non, »
répondit Saul, et il suivit le même chemin que les autres.
« C'est sûrement illégal, » dit Tony Harrod.
Il regardait des filets réverbères, bâtiments et voies express sous l'appareil qui filait à 300 pieds d'altitude.
« Hélico de la police, » dit Colben. « Autorisation spéciale. »
Colben avait orienté son siège de façon à pouvoir se pencher par une vitre ouverte côté tribord. Un air glacé venait poignarder Harrod et Maria Chen. Colben tenait un fusil militaire Colt calibre 30 calé sur un support spécial au bord de la fenêtre. Son viseur nocturne volumineux, sa lunette laser et son énorme chargeur lui donnaient un aspect peu maniable. Colben sourit et murmura quelques mots dans le micro à moitié caché par la cagoule de sa parka. Le pilote vira brusquement sur la droite, décrivant un cercle au-dessus de Germantown Avenue. Harrod s'accrocha des 2 mains à son siège rembourré et ferma les yeux. Il était sûr que seule sa ceinture de sécurité l'empêchait de passer par la vitre ouverte et d'aller s'écraser dans la rue 30 étages plus bas.
« Leader rouge à centre de contrôle !» appela Colben. « Votre rapport ?»«
Ici, centre de contrôle, » dit la voix de l'agent Léonard. « Le groupe bleu 2 signale la présence de 4 automobiles transportant des portoricains de sexe masculin dans le périmètre de sécurité de Marquette et Chelton. D'autres groupes non identifiés sont signalés dans la ruelle, derrière Château 1 et Château 2. Un groupe de 15 noirs de sexe masculin vient de passer près du groupe blanc 1 dans Ashmead. Terminé. »
Colben se tourna vers Harrod et lui sourit.
« Je parie que c'est une bagarre qui se prépare. Nègre contre graisseux la veille du nouvel an. »
« Il est minuit passé, » dit Maria Chen. « Nous sommes le jour de l'an. »
« Peu importe. Et puis merde, qu'il se castagne, on s'en fout. Tant qu'il ne gêne pas l'opération Aurore. Pas vrai, Harrod ? »
Tony Harrod continua de se cramponner, sans rien dire. Le souffle court, le shérif Gentry devait courir pour ne pas se faire distancer. Marvin et Leroy conduisaient un groupe de 10 adolescents à travers un labyrinthe de ruelles, d'arrière-cours, de terrains vagues emplis de détritus et d'immeubles désaffectés. Ils arrivèrent à l'entrée d'une ruelle, et Marvin fit signe à tout le monde de s'accroupir. Gentry aperçut une fourgonnette garée à 60 mètres de là, derrière des bennes à ordures et des garages avachis.
« Des flics fédéraux !» murmura Leroy.
Le jeune barbu consulta sa montre et sourit.
« On a une minute d'avance !»
Les mains calées sur ses genoux, Gentry reprit son souffle. Il avait un point de côté. Il avait froid. En ce moment, il aurait voulu être chez lui à Charleston, en train d'écouter le Dave Brubeck Quartet sur sa chaîne stéréo, tout en lisant un livre de Bruce Catton. Il appuya sa tête contre la brique froide et repensa à un incident survenu alors qu'ils allaient quitter Community House, un incident qui lui avait fait considérer Germantown et le Soul Brickyard sous un nouveau jour. Un petit garçon, il n'avait pas plus de 7 ou 8 ans, était entré dans le foyer en courant, alors que le dernier groupe se préparait à partir. Il s'était dirigé droit sur Marvin.
« Stevie, avait dit le chef de la bande, je t'avais pourtant dit de ne jamais venir ici. »
Le petit garçon était en pleurs. Il s'était essuyé le visage avec sa manche.
« Maman a dit que tu devais revenir à la maison tout de suite. Maman a dit qu'elle et Marita avaient besoin de toi et que tu devais revenir tout de suite. »
Marvin avait passé un bras autour des épaules de l'enfant et l'avait emmené dans une pièce voisine. Gentry l'avait entendu.
« Tu dis à maman que je serai là demain à la première heure. Que Marita reste là-bas et s'occupe de tout. Tu leur dis ça, d'accord, Stevie ?»
Cet incident avait troublé Gentry. Jusque-là, la bande avait fait partie intégrante du cauchemar qu'il vivait depuis 5 jours. Germantown et ses habitants avaient trouvé tout naturellement leur place dans le chaos de douleurs, de ténèbres et d'événements apparemment sans rapport entre eux où se débattait Gentry. Il savait bien que les membres de la bande étaient des jeunes. Jackson était une exception, mais c'était une âme perdue, un visiteur, un diplômé de retour dans sa vieille école, parce que la vie ne lui avait fourni aucune autre issue. Gentry n'avait vu que de rares adultes dans les rues glacées. Il s'agissait pour la plupart de femmes silencieuses, au visage marqué, marchant d'un pas pressé, de vieillards errant sans but précis ou regardant la rue par la fenêtre d'un bar, des inévitables poivreaux gisant sur des pas de porte encombrés de détritus. Il savait que ce n'était pas là la véritable communauté qui peuplait ce lieu. Qu'en été, les rues et les perrons seraient remplis de familles, d'enfants jouant à la marelle, d'adolescents jouant au basketball, de jeunes gens discutant en riant, accoudés à leurs automobiles luisantes. Il savait que si les rues étaient désertes, c'était à cause du froid, d'une violence nouvelle et de la présence d'une armée d'envahisseurs qui se croyaient invisibles, mais l'arrivée de Stevie avait confirmé ses impressions confuses. Gentry se sentait égaré dans un lieu étrange et glacé, affrontant avec des enfants des adversaires adultes qui avaient tous les pouvoirs.
« Les voilà, mec !» murmura Leroy.
3 automobiles bruyantes stoppèrent dans la rue à l'autre bout de la ruelle. Des jeunes en sortirent, riant, chantant, criant en espagnol. Plusieurs se dirigèrent vers la fourgonnette et commencèrent à taper dessus avec des tuyaux et des battes de baseball. Les phares du véhicule s'allumèrent. Un de ses passagers poussa un cri. 3 hommes en descendirent. L'un d'eux leva un fusil à pompe et tira en l'air.
« On y va !» souffla Marvin.
Les membres du groupe sprintèrent sur 20 mètres, rasant les barrières et les murs des garages. Ils firent halte derrière un appentis, se pressant contre une petite clôture grillagée. De nouveaux coups de feu retentirent en provenance de la fourgonnette. Gentry entendit les voitures des Portoricains démarrer en trombe en direction de Germantown Avenue.
« Grumblethorpe !» dit Leroy.
Et Gentry regarda à travers le grillage, découvrant une petite cour, de grands arbres nus et l'arrière d'une maison de pierre.
Marvin se coula près de lui. « Il y a des barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée, une porte derrière, deux portes devant. On va rentrer des deux côtés. Allons-y. » Marvin, Leroy, GB, GR et les deux autres escaladèrent la clôture, aussi vifs que des ombres. Gentry essaya de les suivre, s'accrocha au grillage et tomba sur le sol gelé, se cognant le genou. Il dégaina son rugeur et courut rejoindre les autres. Marvin et GB lui firent signe de se diriger vers le côté. Ils avaient tous deux un fusil à pompe, et Marvin avait noué un mouchoir rouge autour de ses cheveux coiffés à l'afro. « On va entrer par devant. » Une clôture en bois haute d'1,20 m séparait la maison en pierre de l'épicerie adjacente. Ils attendirent qu'un tramway vide soit passé, puis Marvin ouvrit le portail d'un coup de pied, et GB et lui s'avancèrent hardiment, passant nonchalamment devant les fenêtres condamnées pour gagner les deux portes. Chacune d'elles était flanquée de deux grilles basses. Une porte en plan incliné, fermée par un cadenas, donnait de toute évidence sur la cave. Gentry recula d'un pas et examina la façade de l'immeuble. Aucune lumière n'était visible à ces 9 fenêtres. Germantown Avenue était déserte, exception faite du tramway qui se trouvait déjà à 2 pâtés de maison à l'ouest. L'éclairage au sodium, choisi pour décourager les délinquants, bariolait de jaune les façades en briques. La nuit sentait le froid et leur avancée.
« Vas-y, » dit Marvin.
GB se dirigea vers la porte ouest et donna un violent coup de pied dedans. Le montant de chêne ne bougea pas. Marvin hocha la tête et les deux adolescents armèrent leurs fusils, reculèrent d'un pas et tirèrent sur les serrures. Des échardes jaillirent du bois et Gentry détourna la tête, se protégeant instinctivement les yeux. Les deux adolescents tirèrent une nouvelle fois et Gentry se retourna juste à temps pour voir la porte s'ouvrir. GB sourit à Marvin et leva le poing en signe de victoire, alors qu'un minuscule point rouge apparaissait sur son torse et montait vers sa tête. GB leva les yeux, se toucha le front, faisant apparaître le point rouge sur le dos de sa main, et jeta à Marvin un regard de surprise amusée. Le bruit de la détonation fut lointain et étouffé. Le corps de GB alla rebondir sur la porte avant de s'effondrer sur le trottoir. Gentry eut le temps de remarquer que le front du garçon avait en grande partie disparu, puis il se mit à courir, tomba à 4 pattes, rampa jusqu'au portail de la clôture latérale. Il avait à peine vu Marvin sauter par-dessus la petite grille et s'engouffrer dans la maison. Des petits points rouges dansèrent sur la pierre au-dessus de Gentry. 2 balles projetèrent des éclats de pierre sur son visage, puis il franchit le portail, roula sur lui-même et heurta violemment un obstacle invisible, alors que plusieurs balles hachaient la clôture et labouraient le sol gelé sur sa gauche. Gentry rampa à l'aveuglette en direction de l'arrière-cour. On tira de nouveau depuis l'avenue, mais toutes les balles se perdirent. Leroy se précipita vers lui, haletant, et tomba à genoux.
« Merde ! Qu'est-ce qui se passe ?»«
Des tireurs embusqués de l'autre côté de la rue !» Octa Gentry, stupéfait de constater qu'il n'avait pas lâché son rugeur. « Au premier étage ou sur le toit, ils ont une sorte de lunette laser. »«
Marvin ?»«
À l'intérieur, je crois. GB est mort. » Leroy se redressa, fit un signe du bras et s'en fut. Une 12 d'ombres se précipitèrent vers le devant de la maison. Gentry courut le long du mur latéral et scruta l'arrière-cour. La porte de derrière était ouverte et une faible lumière était visible à l'intérieur. Puis une fourgonnette s'immobilisa dans la ruelle. Une portière s'ouvrit, la veilleuse découpa brièvement la silhouette du conducteur au moment où il mettait pied à terre, et 12 de coups de feu éclatèrent dans une zone d'ombre située près de l'appentis. L'homme se hâta de réintégrer son véhicule et la portière se referma. Quelqu'un poussa un cri depuis l'appentis. Et Gentry vit des ombres courir en direction de l'arbre. Un bruit d'hélicoptère se fit entendre, et soudain, le feu d'un projecteur éclaira de sa lueur crue la majeure partie de la cour. Un garçon, dont Gentry ignorait le nom, se figea tel un cerf paralysé par des phares de voiture, et leva la tête en plissant les yeux. Gentry vit une tache rouge danser sur la poitrine de l'adolescent pendant une seconde, puis sa cage thoracique explosa. Gentry n'avait entendu aucune détonation. Gentry agrippa son rougeur des deux mains et tira trois balles en direction du projecteur. Le rayon lumineux ne disparut pas, mais balaya la scène dans tous les sens, éclairant les branches, les toits et la fourgonnette, puis l'hélicoptère s'éleva dans la nuit. Plusieurs coups de feu furent échangés devant la maison. Gentry entendit quelqu'un hurler d'une voix de fausset. Il y eut d'autres explosions, d'autres lueurs en provenance de la fourgonnette, et Gentry entendit d'autres voitures approcher. Il jeta un coup d'œil au rugeur, estima qu'il n'avait pas le temps de le recharger, et se précipita vers la porte de Grumblethorpe. Il y avait des années que Saul Lasky n'avait pas conduit un bulldozer. Mais dès que Jackson eut remplacé une magnéto pour faire démarrer l'engin, Saul se hissa sur le siège rembourré et s'efforça de rappeler à lui des compétences laissées en friche depuis la construction du kibbutz, à laquelle il avait participé presque 20 ans plus tôt. Heureusement, il se trouvait dans un Caterpillar D7, le descendant en ligne directe des engins de son kibbutz. Saul débraya, mit le levier de vitesse au point mort, poussa le levier de réglage du régime moteur, appuya sur la pédale de frein droite et la bloqua en position, vérifia que tous les leviers importants étaient au point mort, puis se mit à la recherche du démarreur. « Ah !» murmura-t-il lorsqu'il l'eut trouvé. Il mit les leviers de transmission et de compression en position voulue, du moins l'espérait-il, embraya le levier de démarrage, ouvrit l'arrivée d'essence, tira le starter, libéra le loquet de ralenti et appuya sur le démarreur. Rien ne se passa.
« Hé, le vieux !»
hurla le dénommé Poisson-Chat qui était accroupi près du siège.
« Tu sais ce que tu fais, au moins ?»«
Absolument !»
cria Saul en réponse. Il tendit la main vers un levier, estima que ce n'était pas le bon, en saisit un autre et tira. Le démarreur électrique se mit à gémir et le moteur rugit. Il trouva la pédale d'accélérateur, embraya, donna trop de traction à la chenille de droite et faillit écraser Jackson, qui se préparait à faire démarrer un second bulldozer à sa gauche. Saul reprit le contrôle de son engin, faillit caler, et réussit à l'orienter vers le groupe de caravanes à 60 mètres de là. Un nuage de gaz d'échappement lui arriva en pleine figure. Saul jeta un coup d'œil à sa droite et vit trois membres de la bande qui couraient à côté de l'engin.
« Ce machin pourra pas aller un peu plus vite ?»
cria Poisson-Chat. Saul entendit un raclement et se rendit compte qu'il n'avait pas levé la lame de l'engin. Il remédia à son oubli et le bulldozer s'élança avec un nouvel enthousiasme. Un rugissement s'éleva derrière eux lorsque l'engin conduit par Jackson démarra à son tour.
« Qu'est-ce que tu vas faire quand on arrivera là-bas ? »
cria Poisson-Chat.
« Tu verras bien !»
lança Saul en ajustant ses lunettes. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il allait faire. Il savait que, d'une seconde à l'autre, les agents du FBI allaient sortir des caravanes, se disperser et ouvrir le feu. Les bulldozers, très lents, leur offriraient des cibles en or. Il n'avait qu'une toute petite chance de parvenir au niveau des caravanes. Il y avait des dizaines d'années que Saul ne s'était pas senti aussi bien. Malcolm Dupris conduisit 8 membres de Saul Brickyard dans la maison d'Anne Bishop. Marvin était presque sûr que la sorcière vaudou se cachait dans l'autre maison, la vieille bicoque de l'avenue, mais l'équipe de Malcolm avait pour mission de fouiller la maison de Queen Lane. Il n'avait pas de radio. Marvin avait affecté à chaque groupe au moins 2 nains, des membres auxiliaires de la bande âgés de 8 à 11 ans, destinés à servir de coursiers. Malcolm n'avait aucune nouvelle du groupe dirigé par Marvin. Mais dès qu'il entendit des coups de feu en provenance de l'avenue, il prit la moitié de ses hommes et pénétra dans l'arrière-cour d'Anne Bishop. Les 6 autres continuèrent de surveiller la fourgonnette du téléphone garée au bout de la ruelle. Malcolm, Donnie Coles et le petit Jamie, le frère cadet de Louis Solartz, passèrent les premiers, ouvrant la porte de la cuisine d'un coup de pied pour se précipiter à l'intérieur. Malcolm agita le pistolet automatique 9 mm graissé de frais et tout luisant qu'il avait acheté $75 à Mohamed. Il y avait 14 balles dans son chargeur brinque-ballant. Donnie était armé d'un pistolet bon marché dont la chambre ne contenait qu'une seule cartouche de calibre 22. Jamie n'avait sur lui que son couteau. La vieille femme qui habitait là n'était pas chez elle, et il n'y avait aucun signe de la sorcière vaudou ni du monstre blanc. Il ne leur fallut que 3 minutes pour inspecter la petite maison, puis Malcolm retourna dans la cuisine pendant que Donnie allait jeter un coup d'œil sur le devant.
« Il y a plein de trucs sur le lit en haut, » dit Jamie comme s'ils étaient en train de faire leur valise.
« Ouais, » fit Malcolm. Il adressa un signe à ses compagnons dans l'arrière-cour, et Jefferson, le coursier âgé de 10 ans, s'empressa de le rejoindre.
« Va faire un tour près de la vieille bicoque de l'avenue et demande à Marvin ce qui... »
Ils entendirent grincer des portes de garage, puis un bruit de moteur tournant au ralenti. Malcolm fit signe aux autres et, passant par derrière, fit irruption dans l'allée alors qu'une vieille voiture à la calandre bizarre sortait du garage. Ses phares n'étaient pas allumés, et sa conductrice serrait le volant dans une attitude nerveuse de chauffeur timoré. Malcolm reconnut aussitôt Miss Bishop. Il l'avait toujours vue dans le quartier. Il avait même tondu sa pelouse quand il était gamin. 5 de ses équipiers bloquèrent le passage à la voiture pendant que Malcolm se dirigeait vers sa conductrice. Elle jeta autour d'elle un regard terrifié, puis abaissa sa vitre. Sa voix avait des accents étranges, des accents de somnambule.
« Écartez-vous, les enfants, je dois sortir !»
Malcolm jeta un coup d'œil dans la voiture pour s'assurer que personne ne s'y cachait. Miss Bishop était seule à l'occuper. Il abaissa son automatique et se pencha vers elle.
« Désolé, mais vous n'irez nulle part tant que... »
Les mains d'Anne Bishop jaillirent vers son visage, ses doigts recourbés comme des griffes. Malcolm aurait eu les 2 yeux crevés s'il n'avait pas instinctivement rejeté la tête en arrière. Mais les ongles de la femme blanche n'en laissèrent pas moins 8 sillons sanglants sur ses joues et ses paupières. Malcolm hurla, et la vieille voiture bondit en rugissant, projetant le petit Jefferson dans les airs et écrasant Jamie sous sa roue avant gauche. Malcolm jura, chercha à tâtons son arme sur le gravier, mit un genou à terre lorsqu'il l'eut trouvé, et tira 3 coups de feu en direction de la voiture qui s'éloignait avant que quelqu'un ne lui crie de faire gaffe. Malcolm pivota, toujours sur un genou. La fourgonnette du téléphone, qui se trouvait au bout de la ruelle, fonçait droit sur lui. Malcolm braqua son arme sur elle et se rendit aussitôt compte qu'il avait commis une erreur et perdu un temps précieux. Il ouvrit la bouche pour hurler. La fourgonnette du FBI roulait au moins à 100 à l'heure lorsque son pare-choc avant heurta Malcolm en pleine figure.
« Foutons le camp d'ici !»
hurla Tony Harrod, alors qu'une balle ricochait sur le patin gauche de l'hélicoptère dans un jaillissement d'étincelles. Il flottait à 60 pieds au-dessus de la terrasse d'un immeuble, pendant que Colben s'amusait avec son flingue tout droit sorti de la guerre des étoiles, un sourire stupide plaqué sur son visage. Hajek, le pilote, était de toute évidence du même avis que Harrod, car il avait fait virer l'hélico sur la droite et repris de l'altitude avant que Colben ne s'écarte de la vitre pour lui lancer un ordre. Richard Haynes restait stoïquement assis sur le siège du copilote, regardant le paysage comme s'ils étaient de simples touristes en train de visiter Philadelphie la nuit. Maria Chen, assise à droite de Harrod, gardait les yeux fermés.
« Leader rouge à centre de contrôle !» appela Colben.
Harrod et Maria Chen portaient un casque micro pour pouvoir communiquer en dépit des rugissements du vent et du moteur.
« Leader rouge à centre de contrôle !»«
Ici, centre de contrôle !» dit une voix féminine. « Je vous écoute, leader rouge !»«
Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Ça grouille d'indésirables autour de Château 2 !»«
Affirmatif, leader rouge !» Le groupe vert est entré en contact avec un groupe de noirs armés tentant d'entrer par effraction dans Château 2. Le groupe Or est en train de poursuivre la cible 2, qui conduit une DeSoto modèle 1953 et se dirige vers le nord parallèlement à Queen Lane. Les groupes bleu, blanc, gris, argent et jaune
signale qu'ils sont entrés en contact avec des individus hostiles non identifiés. Le maire a déjà téléphoné 2 fois. Terminé.
Le maire ? Répéta Colben.
Nom de Dieu !
Où est passé Léonard, bordel ?
Terminé. L'agent Léonard est sorti pour enquêter sur tout un remue-ménage dans le chantier. Je lui dirai de vous contacter dès qu'il sera revenu, leader rouge.
Terminé.
Bordel de merde ! Jura Colben.
Bon, écoutez, je vais faire déposer Haynes pour qu'il dirige les opérations à Château 2. Dites au groupe bleu et blanc d'aller boucler le périmètre de Marquette à Ashmead. Dites au groupe vert et or que personne ne doit entrer ni sortir de Château 2. Compris ?
Affirmatif, leader rouge. Nous avons un...
Il y eut un grésillement atroce, puis la communication fut coupée.
Merde ! Dit Colben.
Centre de contrôle.
Centre de contrôle.
Haynes, nous adoptons la tactique 2-5.
Groupe or.
Groupe or, ici leader rouge.
Peterson, vous me recevez ?
Affirmatif, leader rouge.
Répondit une voix masculine plutôt tendue.
Où diable êtes-vous ?
Terminé.
Nous roulons dans Germantown Avenue en direction de l'ouest, derrière la cible 2, leader rouge.
Terminé.
La Bishop ? Où va...
Nous avons besoin d'aide, leader rouge,
coupa la voix.
2 véhicules conduits par des portoricains de sexe masculin. On vous recontactera, leader rouge.
Terminé.
Colben se pencha vers le pilote et lui ordonna.
Posez-vous.
Le pilote, coiffé d'une casquette de baseball, mâchait du chewing-gum d'un air décontracté.
Aucun terrain disponible, monsieur. Je reste à 1000 pieds.
Allez vous faire foutre,
rugit Colben.
Posez-vous sur Germantown Avenue s'il le faut. Tout de suite.
Le pilote jeta un coup d'œil sur la droite, fit virer l'hélicoptère et hocha la tête. Tony Harrod faillit hurler lorsque l'appareil tomba comme un ascenseur au câble rompu. Les réverbères semblèrent se précipiter sur eux. Ils aperçurent un incendie à un pâté de maison sur leur gauche, puis l'hélicoptère ralentit sa chute et se posa comme une fleur sur la brique et l'asphalte, en plein milieu de la chaussée. Haynes en descendit aussitôt, courant le dos courbé vers le trottoir.
« Remontez !»
hurla Colben en levant son pouce vers le pilote.
« Non !»
cria Harrod. Il fit un signe de la tête à Maria Chen et tous deux débouclèrent leur ceinture.
« On descend, nous aussi !»«
Pas question !»
dit Colben dans son micro. Harrod ôta son casque, alors que Maria Chen sortait son Browning de son sac à main et le braquait sur Colben.
« On descend ici !»
cria Harrod.
« Vous êtes un homme mort, Harrod !»
dit doucement Colben. Tony Harrod secoua la tête.
« Je ne vous entends pas, Chuck !»
hurla-t-il.
« Ciao !»
Harrod descendit par la portière gauche et courut dans la direction opposée à celle que Haynes avait prise. Maria Chen attendit 30 secondes, puis se glissa à son tour vers la porte.
« Vous êtes morts tous les deux !»
dit Colben en souriant. Il jeta un coup d'œil au fusil fixé à la paroi tribord de l'appareil et se détendit. Maria Chen haussa les épaules, bondit et se mit à courir.
« 100 pieds !»
dit Colben dans son micro. L'hélicoptère s'arracha au-dessus des toits et des fils électriques, pivota vers la gauche et flotta 10 étages au-dessus de l'avenue. Colben posa le fusil sur son socle et balaya les ruelles avec son viseur nocturne. Rien ne bougeait.
« Trop de corniches, bordel !»
murmura-t-il. Un dialogue rapide emplit ses écouteurs. Il entendit la voix de Richard Haynes exigeant un rapport des tireurs du groupe vert. Colben secoua la tête.
« Retournez à Château 2 !» ordonna-t-il sèchement. « On s'occupera de ce connard après !»
L'hélicoptère vira, piqua du nez au moment où il reprenait de l'altitude, et se dirigea vers l'est.